Nous prenons nos Bibles dans le livre de Jean au chapitre 11. Jean au chapitre 11. Jean, chapitre 11, verset 1er. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignait de parfum le Seigneur et qui lui essuyait les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Voici, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était et dit ensuite aux disciples, retournant en Judée. Nous continuons au verset 11. Après ces choses, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'ai pas été là. Mais nous allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Amen. Voilà la parole du Seigneur. La Bible dit que Jésus reçoit un message. Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, envoient un message à Jésus pour dire que Lazare est malade. Et Jésus parle avec ses disciples. Il dit aux disciples que Lazare est mort. Jésus connaissait la situation exacte de Lazare. Jésus n'avait pas besoin qu'on vienne lui dire que Lazare était malade. Qui a dit à Jésus que Lazare était mort? Personne, parce qu'il fallait 2 jours pour les messagers pour venir dire à Jésus. Il fallait 2 jours. Donc pendant ce temps-là, quand ils sont partis, Lazare était malade. Mais au moment où ils viennent voir Jésus, Lazare est déjà mort. Mais Jésus est au courant de la situation et nous voyons le verset 3 et le verset 5. C'est un petit détail qui est important. Verset 3. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Donc les sœurs envoient un message à Jésus pour dire, celui que tu aimes, Lazare, est malade. Et au verset 5, on nous dit, or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Pourquoi la Bible nous donne ce détail-là? Jésus aime tous les hommes. Jésus, c'est Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est l'amour parfait, l'amour véritable. Jésus aime tous les hommes. Et si on nous précise que Jésus aimait Lazare, c'est que ce n'était pas simplement un amour comme tous les autres hommes. C'est-à-dire que Jésus avait une relation avec Lazare. Jésus connaissait, comme il connaissait tous les hommes, lorsqu'il a prophétisé en voyant un disciple, en disant, lorsque tu étais sous l'arbre, je te connaissais, je t'avais vu. Jésus connaît tous les hommes. Mais si on nous précise à deux reprises que Jésus aimait Lazare, c'est parce que non seulement Jésus le connaissait de manière générale, puisqu'il connaît tout, mais Jésus avait une relation personnelle avec Lazare. Mais alors, comment expliquer que Jésus, qui aime Lazare, laisse les choses ainsi? On se rappelle de l'histoire du centenaire romain. Il était romain, Jésus était juif. Il n'y avait aucun rapport. Lorsqu'il vient voir Jésus, il dit à Jésus, « Mais Seigneur, voilà mon serviteur est malade. » Et qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, « Allons-y, je vais le guérir. » Et le serviteur dit à Jésus, « Non, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Puisque toi tu es juif, moi je suis romain. » Nous sommes considérés comme étant des gentils, des hommes qui vivent dans le péché. Donc tu ne peux pas venir chez moi. Mais tu peux dire une parole et mon serviteur sera guéri. Alors un homme qui est étranger à la vie de Jésus, Jésus a fait grâce à cet homme parce que le serviteur a été guéri. Jaïrus, sa fille, a été guérie. C'était des étrangers. Alors la question que je me suis posée, mais comment Jésus peut faire du bien aux gens qui lui sont plus ou moins éloignés? On se rappelle aussi dans Matthieu 15, la femme syrophénicienne qui vient voir Jésus en disant, « Maître, fais quelque chose, ma fille est tourmentée par des esprits mauvais. » Et Jésus agit, il dit, « Femme, ta foi est grande. » Et la fille est délivrée. Alors comment expliquer que Lazare, qui était un proche, comme on a dit, puisque Jésus aimait en réalité, Jésus était un proche de Lazare. Lazare était un proche de Jésus. Mais pourquoi il a laissé faire la situation ainsi? Le Seigneur nous donne la réponse, il dit, afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Le thème de notre exhortation ce matin, c'est Dieu qui permet. C'est Dieu qui permet, c'est Dieu qui permet toutes choses, toute situation. Comme j'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on vient donner le message au Seigneur, Jésus était déjà au courant de la situation. Dieu n'est pas surpris par ce qui nous arrive, par les situations qui nous tombent dessus. Dieu n'est pas surpris. Lorsque Jésus part pour finalement rencontrer la famille, Marthe vient en accourant vers Jésus en disant, « Mais maître, mais si tu avais été là, les choses n'auraient pas été ainsi. » Mais Jésus dit à Marthe, « Mais ce n'est pas une question d'être là ou pas là. » Comme on a vu tout à l'heure avec le centenier romain, il n'avait pas besoin que Jésus se déplace. Marthe dit, « Mais si tu avais été là, les choses auraient été différentes. » Mais Jésus a laissé les choses ainsi, puisque il voulait que la volonté de son Père s'accomplisse. C'est Dieu qui permet. C'est très important de comprendre cela. La Bible dit dans Romains 8, au verset 28, que toutes choses concourent, toutes choses marchent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que, à partir du moment où nous sommes enfants de Dieu, tout ce qui nous arrive, c'est Dieu qui l'a permis. C'est non seulement Dieu l'a permis, mais c'est Dieu qui a décidé que les choses soient ainsi. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est très important de comprendre déjà ce premier point-là. Après, il y a la question qui vient après pour dire, mais pourquoi il permet? Là, c'est autre chose. Mais déjà, de savoir que la situation dans laquelle je me trouve, c'est Dieu qui a permis, alors ça nous tranquillise. On voit la réaction de Thomas. Thomas dit, bon, s'il dort, allons-y. Parce que quand ils ont appris la nouvelle, quand Jésus leur a dit « Lazare dort », ils ont refusé de croire en cela parce qu'ils se sont dit « c'est pas possible, nous sommes avec le maître, comment Lazare peut mourir ?» Jésus leur dit ouvertement, comme c'est écrit, il dit « Lazare est mort maintenant. » Mais ensuite il dit « allons-y ». Et Thomas et les autres se disent « bon, en quelque sorte le maître sait ce qu'il fait. C'est Dieu qui permet, lorsqu'on a la conscience dans notre tête que tout ce qui nous arrive, c'est ce que nous allons voir. » Lorsqu'on a affaire à des méchants, lorsqu'on est dans une situation de maladie, lorsqu'on est dans une situation d'épreuve, quelle que soit la situation, la première chose à savoir, c'est Dieu qui permet. Dieu laisse faire. Il a son objectif. Jésus savait que Lazare était malade. Il suffisait qu'il parle, qu'il donne un ordre. Les choses changeraient. Mais il a voulu les choses ainsi. Puisqu'il avait un objectif. Mais d'abord pour nous faire comprendre à nous que c'est Dieu qui permet. Il y a beaucoup de passages. Il y a un passage dans Lamentations 3, verset 37, qui dit « Qui peut ordonner qu'une chose arrive si l'Éternel ne l'a pas décidé ?» Qui peut ordonner qu'une chose arrive sur la terre si Dieu ne l'a pas décidé ? Personne. Personne. Il est écrit dans Ésaïe 45, au verset 7. Dieu dit, c'est moi l'Éternel qui ai créé. On peut lire tous ces passages-là pour nous faire prendre conscience de la première information, c'est que Dieu est au courant de tout. Et dans tout ce qui nous arrive, c'est lui qui permet. Nous lisons Ésaïe 45. On peut commencer à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. Ésaïe 45, 5 à 7. Je suis l'Éternel, c'est Dieu lui-même qui parle. Il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint, avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes choses. Voilà ce que le Seigneur dit. Il dit que c'est lui qui crée, qui permet la prospérité. Ici, on peut comprendre comme étant la bénédiction. La véritable prospérité, c'est la bénédiction de Dieu. Lorsqu'on marche avec Dieu, eh ben, Dieu nous bénit. C'est ça la véritable prospérité. C'est pas le fait de, dans le milieu chrétien, on enseigne la prospérité pour voler, être avare, être dans la convoitise. Mais Dieu dit ici, c'est lui qui crée la prospérité et c'est lui qui permet aussi qui est l'adversité. Il dit, c'est moi qui fais toutes choses. Il est écrit dans Matthieu 10, verset 30, le Seigneur dit, il parle aux disciples, il dit, même pas un seul cheveu tombe de votre tête sans que je ne sois au courant. Alors, imaginons la grandeur de Dieu. Si un seul cheveu, Dieu est au courant. Parfois, nous, on perd les cheveux, on ne se rend même pas compte. Mais Dieu, lui, il est au courant. La première information, c'est Dieu qui permet. Jésus a fait exprès de rester. Et il dit même, il se réjouit, il dit aux disciples, je me réjouis de ce que je n'ai pas été là. Dans tout ce qui nous arrive, ayons en tête que c'est Dieu qui permet. D'abord. Et la conséquence de cela, c'est quoi? C'est que ça nous apaise. On se dit, ah, pourquoi? Ça veut dire quoi Dieu permet? Parce que ça veut dire que c'est Dieu qui contrôle les choses. Et c'est écrit aussi dans la Bible, Joël 2:28, la Bible dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Donc c'est-à-dire que les temps qui arrivent et les circonstances, tous ensemble, Dieu les dirige. Il dirige tout en même temps. Mais non seulement il dirige, il décide. Il décide. Lorsque Job a vécu des épreuves, des situations difficiles, Job n'avait pas les informations que nous avons. Nous, lorsque nous regardons, nous lisons l'histoire de Job, c'est comme à la télévision. Quand on regarde un match de foot, on sait que le côté gauche, il y a des lacunes. Parce que nous, on a du recul, on peut voir les fautes. Mais Job, lui qui vivait la situation, il ne savait pas ce qui s'est passé. Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Job, Dieu s'est servi de Job pour manifester sa gloire. Il dit à Satan, va, attaque Job, mais je te donne des limites. La limite à ne pas dépasser, c'est de ne pas prendre sa vie. Dans tout ce qui nous arrive, ayons conscience pleine que c'est Dieu qui permet. Et quand on a cette conscience-là, on est calme, ça nous tranquillise. On sait que finalement, je change aussi ma prière parce que je sais que Seigneur, ce qui me tombe dessus, c'est toi qui l'as décidé, parce que si tu ne l'avais pas décidé, ça n'arriverait pas. Mais si c'est arrivé, alors aide-moi, soutiens-moi, apprends-moi à comprendre quel est l'enseignement que tu me donnes. C'est ça le but de notre exhortation ce matin, c'est de nous dire ça. Puisque Dieu permet, alors orientons aussi nos prières dans ce sens-là. On verra l'exemple des personnes comme David qui a connu des choses difficiles, mais David remettait toutes ces choses à Dieu. Puisqu'il comprenait que en réalité, tout ce qu'il vivait, c'est Dieu qui avait piloté. C'est Dieu qui pilotait toutes choses. Et lorsqu'on a cette conscience-là, ben on est tranquille. Et Jésus parle à Marthe et Marie et dit, mais ne t'ai-je pas dit que celui qui croit vivra? Marthe dit, oui, mais Seigneur, nous connaissons toutes ces choses. Mais ce ne sera pas aujourd'hui, ce sera au dernier jour. Jésus dit non. La situation qui est là, c'est moi qui ai permis cela. Nous lisons Luc chapitre 22. Luc 22, à partir du verset 31. Le Seigneur dit, Luc 22, 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Voilà ce que le Seigneur dit. On prend juste ces trois versets. Le Seigneur dit à Simon, Simon, le diable, l'ennemi, cherche à te cribler. Comme on crible le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que lorsque tu seras revenu, tu seras fortifié, tu seras aussi un soutien pour les autres. Alors lorsque nous lisons ce passage, la question qui me vient, c'est de me dire toujours, mais pourquoi le Seigneur n'a pas empêché à ce que le Satan attaque Pierre? Parce qu'il avait un enseignement à donner à Pierre. Parce qu'il voulait que Pierre comprenne d'abord l'importance de la prière, parce que Jésus dit lui-même que j'ai prié pour toi. Il aurait pu décider, mais il dit j'ai prié pour toi. Et ce texte nous montre encore un très grand enseignement, c'est que Dieu est au courant de tout. Donc Jésus, avant même de nous attaquer, il doit d'abord passer, le diable, avant même de nous attaquer, il doit d'abord passer par le Seigneur. Amen. Le diable, avant de nous attaquer, il a d'abord affaire au Seigneur lui-même, puisque c'est Jésus qui a vaincu le diable, l'ennemi. Et Jésus dit, parce que Pierre ne savait pas ce qui se passait. Pierre vivait sa vie tous les jours. Mais le Seigneur a vu ce qui se passait. Et il dit à Pierre, j'ai déjà vaincu pour toi. Mais voilà ce qui va t'arriver. Tu seras criblé comme le froment. Et lorsqu'on réalise cela, on comprend que finalement, tout ce qui nous arrive, Dieu pilote cela. C'est Dieu qui permet. Le diable, les démons, les sorciers, il y a des gens qui sont devenus spécialistes pour tailler les démons, pour chercher des sorciers partout, pour faire toutes sortes de cures d'âme. Je ne dis pas qu'on ne doit pas chasser les démons. Oui, c'est une réalité. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, la priorité, la première chose, c'est de savoir que ma vie est entre les mains du Seigneur. Donc s'il m'arrive quelque chose, c'est que c'est Dieu qui a donné la permission. Comme pour Job, c'est la même chose. S'il m'arrive à moi quelque chose, alors Dieu l'a permis. Parfois, il nous arrive des choses, on commence à s'énerver, on se fâche après les gens, alors qu'en réalité, c'est ce que l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à combattre contre des humains, nous avons à combattre contre des esprits. Mais ce combat-là, Dieu le permet avec un objectif. Ce combat-là, Dieu le permet afin que nous puissions lui faire confiance, afin que nous puissions nous attacher à lui, afin que nous puissions prier, comme le Seigneur lui-même a dit à Pierre, « J'ai prié pour toi. » Dans tout ce qui nous arrive, comprenons que c'est l'Éternel qui permet, Dieu permet. Le Seigneur connaît toutes choses. Il voyait ce qui s'est passé dans le monde spirituel que Pierre ne voyait pas, que Pierre ne comprenait pas. Le Seigneur a vu cela. Il dit à Pierre, le diable, l'ennemi te cherche. Mais moi, j'ai déjà vu cela. Et j'ai déjà vaincu. C'est cela. Tout ce qui nous arrive, réalisons d'abord la première chose, que c'est Dieu qui permet. C'est Dieu qui permet. C'est Dieu qui permet toutes choses. Ce thème, il m'a été inspiré. Je regardais le témoignage d'un chrétien, peut-être que certains connaissent, un chanteur américain, Stephen Curtis Chapman. Et il témoigne. Donc, il avait adopté une fille en Chine. Et nous connaissons tous que les procédures d'adoption, c'est vraiment des procédures très compliquées. Très, très compliquées. Et donc, ils ont adopté cette fille. Et en 2008, donc ils étaient à la maison, la fille est partie avec son frère et il reçoit un appel, on lui dit, il y a eu un accident grave, la fille est mourante, elle est quasiment morte. Et donc il y avait sa fille, son fils et ils étaient complètement effondrés, complètement. Et il dit que il se souvient trois mois avant cet incident, Il parlait comme il partage la parole avec la famille, les enfants. Et il parlait du ciel, il y a des grandes maisons que Dieu a préparées, que Jésus a préparées pour nous, avec plusieurs chambres où nous allons vivre avec Dieu. Et la fille posait des questions sans arrêt en disant, mais est-ce qu'il y a des grandes maisons? Est-ce qu'il y a une chambre pour moi, papa? Est-ce que maman, il y a une chambre pour moi? Qu'est-ce qu'on va faire là-haut? Et posait des questions. Et un jour, la fille insistait. Alors la femme vient voir le monsieur Steven pour lui dire, mais parle avec ta fille parce que elle me pose tellement de questions, mais c'est bizarre parce qu'elle est tellement dans le souci de connaître qu'il faut qu'on lui explique les choses. Mais, et donc, il dit, ben, je répondais aux questions que ma fille me posait, je répondais aux questions. Et il me dit, il dit que prendre les mots d'un enfant, ben, c'est pas toujours facile. Donc, il expliquait comme il pouvait. Mais la fille était toujours dans cela. Et après, ils ont prié. Et donc, chacun a prié, toute la famille a prié. Et la fille prie. Elle dit, Seigneur, je veux être avec toi le plus vite possible. Je veux me réjouir avec toi. Je veux passer du temps avec toi. Et il dit, ce jour-là, c'était une très belle prière, mais on s'est senti mal. On s'est dit, mais comment l'enfant peut prier comme ça? Et lui-même, il dit, j'ai calmé l'enfant en disant, oui, le Seigneur veut qu'on soit avec lui, mais toi, tu n'as que 5 ans. Il faut que tu le serves d'abord sur la terre. Il faut que tu chantes pour Jésus. Il faut que tes amis connaissent Jésus. Il faut que tu ailles témoigner, parler de Jésus, l'amour de Jésus. Et il a voulu calmer la fille. La fille dit, non, non, moi, je veux aller là-bas. Et c'est 3 mois à l'avance que ça s'est passé. Et il dit, ce qu'on a vécu, le drame qu'on a vécu, a été très difficile. Très, très difficile. Mais nous avons eu la paix. Pourquoi? Parce que avec cet événement qui s'est passé à l'avance, on a compris que Dieu nous avait formés déjà à ce moment-là pour comprendre que ce qui nous arrive, c'est Dieu qui l'a permis. C'est Dieu qui a permis. Il dit, si le Seigneur n'avait pas permis ça, il dit, je ne sais même pas dans quel état je me retrouverai aujourd'hui. Puisque ce drame, vous vous rendez compte, un accident. Déjà, le fils, lui-même, il est marqué à vie parce qu'il vit dans la culpabilité de la mort de sa sœur. Les parents vivent dans la culpabilité de se dire, est-ce qu'on a bien fait? Et cette tristesse, mais il dit, on a tenu puisque on a compris que c'est Dieu qui permet, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Il a dit, bon, c'est Dieu qui a été au contrôle, c'est pas le diable, c'est Dieu qui a été au contrôle. Et nous réjouissons tout simplement que notre fille soit avec le Seigneur. C'est cela. Lorsque on réalise que dans tout ce qui nous arrive, c'est Dieu qui permet, eh ben ça nous tranquillise. Même si on n'a pas tout compris, même si on n'est pas passé à la deuxième étape, pourquoi il a permis, mais au moins on sait que puisqu'il nous aime, eh ben il ne peut vouloir que le bien pour nous. Voilà pourquoi on dit ici que Jésus aimait Lazare. Il aimait. Il aimait. Il y a tant de promesses qui nous disent que Dieu a des projets, des plans pour nous. Alors dans ces projets-là, il va nous arriver l'adversité. Il va nous arriver des mauvaises nouvelles. Il va nous arriver des combats. Mais dans toutes ces choses, ayons une seule certitude. Comme Jésus a dit à Pierre, « Pierre, je suis au courant. Je suis déjà au courant de ce qui se passe. » Mais non seulement je suis au courant, mais j'ai déjà agi aussi. C'est ça la réalité. Et l'exemple de Lazare, c'est la même chose. Jésus était au courant, mais Jésus a fini par manifester sa gloire. Afin que notre Père soit glorifié aussi. Puisque Dieu permet, il est au courant. Mais puisqu'il est au courant, et puisqu'il nous aime, alors il va se charger aussi de la situation. Puisque c'est lui qui le permet. Puisque c'est lui qui le permet, il va se charger de la situation. Nous, ayons en tête cela. Nous lisons un exemple que j'aime beaucoup. Genèse 26. Genèse 26. À partir du verset 12, c'est l'histoire de d'Isaac, 12 à 22. Isaac sema dans ce pays et y recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs aussi. Les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimélec dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusa de nouveau des puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers des Gérars querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Et il donna au puits le nom d'Essec, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans ce pays. Alors, Isaac a construit des puits. Et à cette époque-là, pour avoir de l'eau, ce n'est pas comme aujourd'hui, nous avons des robinets. Et dans certains pays encore d'Afrique ou du tiers-monde, les gens partent à la source puiser de l'eau. Mais là, ils étaient dans le désert et pour trouver de l'eau, c'était difficile, il fallait creuser. Ils n'avaient pas de marteau-piqueur, ils n'avaient pas tout ce qu'on a aujourd'hui pour faciliter la tâche. Et voilà qu'ils creusent, enfin, ils reçoivent les puits en héritage. Les bergers de Gérard viennent avec Abimélec pour lui dire « Donne !» Nous, ces puits. Il part une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Isaac n'était pas tout seul. Isaac avait une famille. Il avait des brebis. Il avait des enfants, des serviteurs, les enfants de ses serviteurs aussi. Il avait toute une grande population derrière lui. Et voilà que ces bourreaux sont de plus en plus méchants. Nous nous rendons compte, ils creusent des puits, eux ils viennent, ils comblent cela. Quelle méchanceté! Et ce qui est impressionnant, c'est que Isaac n'a pas ouvert la bouche. En tout cas, on ne nous dit pas qu'Isaac a contesté, il a protesté avec ces gens-là. On ne nous dit pas qu'Isaac a discuté avec ces gens-là. Pourquoi? Eh bien, la réponse est au verset 22. On dit... Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Pourquoi? Parce que Isaac avait conscience que ce qui arrivait là, en réalité, si ces gens-là avaient ce courage de venir le voir pour les chasser de tous ces endroits où ils étaient, c'est parce que, en réalité, Dieu avait permis cela. Et Isaac, lorsqu'il construit, il fabrique le dernier puits, il creuse, il dit maintenant, l'Éternel nous a mis au loin. L'Éternel, maintenant, nous a éloignés des méchants. C'est ça qu'il dit. Pourquoi il a eu cette réaction-là? Parce qu'il savait qu'en réalité, il n'avait pas affaire seulement à ces méchants-là. Il avait affaire aussi à des esprits qui sont derrière. Mais comme lui, il a le Tout-Puissant avec lui. Eh bien, si cela arrive, c'est que Dieu a voulu les choses ainsi. Alors la prière de ce matin, c'est prions pour que Dieu nous donne le discernement. Dans ce que nous vivons là, dans ce que nous traversons, les méchants auxquels nous sommes confrontés tous les jours, que Dieu nous donne le discernement pour comprendre, pour dire, ah, là, c'est le Seigneur. Peut-être que Dieu a voulu l'éloigner comme ça, et c'est ce que lui-même dit. Je pense qu'il a compris, je pense que c'est ça. Si Dieu, finalement il se retrouve loin, c'est parce que Dieu a voulu le préserver de la vie avec les méchants. Peut-être que Dieu a vu, peut-être qu'il allait peut-être se corrompre. On ne sait pas. Et Dieu a voulu exprès qu'il y ait ces querelles, qu'il y ait ces disputes pour que Isaac finalement soit loin. Soit loin de tout cela. Dieu permet des choses. Parfois, nous ne voyons pas. Nous ne comprenons pas. On se dit, mais pourquoi? Mais pourquoi, Seigneur? Ai-je péché? On cherche partout, on cherche partout. Bien sûr, si on a péché, on se repent, on dit, Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi. Et nous sommes pardonnés. Nous sommes pardonnés. Mais là, Dieu a permis cette situation-là pour éloigner Isaac, pour le mettre à part. Dans tout ce qui nous arrive, c'est Dieu qui permet. Et Isaac a eu ce discernement. Il n'a pas vu les choses par rapport à lui-même, par rapport à son nom Isaac, par rapport au fait, parce qu'il aurait pu prier pour dire, « Mais Seigneur, tu nous as promis la prospérité, tu as promis la prospérité à mon père à Abraham, au patriarche, tu nous as promis, tu nous as fait tellement de promesses. » Mais ce n'était pas ça l'attitude d'Isaac. Il s'est dit, « Bon, si les choses sont ainsi, c'est que c'est Dieu qui permet. » alors il permet parce qu'il a un objectif. Il permet parce qu'il veut nous enseigner des choses. Il permet parce que parfois il voit le danger que nous, nous ne voyons pas. Et puisqu'il voit le danger, eh ben, il peut détourner notre voie, notre chemin. Nous, on a fait des projets, on se dit, les choses seront ainsi. Je vais faire mes études comme ça, je ferai comme ça, je ferai... Mais Dieu, puisque lui, il voit loin, eh ben, il peut nous détourner de notre route. Et à ce moment-là, on prie, on crie, on se lamente. On crie après Dieu. Mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Mais Seigneur, prions pour avoir le discernement, que Dieu nous donne le discernement pour comprendre que dans cette situation, le Seigneur veut qu'on le cherche. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous n'avons pas lu, mais par la suite, c'est méchant, c'est mauvais. Abimélec et les autres viennent voir Isaac pour lui dire, Isaac, nous savons maintenant que l'Éternel, le véritable Dieu, est ton Dieu. Alors, puisque Dieu est avec toi, faisons un contrat, signons un pacte de non-agression. Signons un pacte maintenant pour que nous puissions vivre en paix, afin que les bénédictions que toi, tu reçois, que nous aussi, par l'intermédiaire de cette alliance, ce contrat, que nous aussi, nous puissions le recevoir. Et aujourd'hui, c'est un peu la marque de la conversion. Dieu peut permettre de l'adversité, comme on l'a lu. C'est lui qui permet ces choses pour nous briser, nous, pour nous éloigner des dangers, nous épargner parfois des choses que nous ne voyons pas, mais aussi pour se révéler aux gens qui sont autour de nous. Puisque ces gens-là, quand ils ont vu la réaction d'Isaac, je pense que même les méchants, quand ils font du mal, il y a des moments de lucidité dans leur mal qu'ils font. Ils voient aussi la réaction de la personne. Ils voient comment la réaction, ils voient comment la personne réagit aussi. Et Isaac s'est laissé faire. Et je pense que ça a dû tourmenter Abimélec. Ça a dû tourmenter les bergers de Guérard. Ça a dû tourmenter tous ces gens-là. Ils se sont dit, mais comment un homme peut réagir comme ça? Surtout que, mettons-nous dans le contexte, creuser le puits, c'était pas facile, c'était très difficile. Partir vers l'inconnu, vous êtes chassé, vous repartez vers l'inconnu. C'est très difficile. Et ces gens-là observaient cela. Ils observaient Isaac. Et ça a touché ces personnes, ils se sont dit, non, là, un homme normal ne peut pas réagir comme ça. Mais puisque Isaac a eu le discernement, il a compris que ce qui lui est arrivé, en réalité, c'est Dieu qui permet. Et c'est ça le cœur de notre message ce matin. Comprenons, réalisons que dans tout ce qui nous arrive, c'est Dieu qui permet. D'abord la première chose. Et puisque c'est Dieu qui permet, alors nous pouvons maintenant prier avec paix. Nous pouvons maintenant, s'il y avait la peur, s'il y avait le doute, s'il y avait l'inquiétude, maintenant, puisque c'est Dieu qui a permis, maintenant on dit, Seigneur, donne-moi la paix dans la situation. Voilà, la prière change. Puisqu'on a compris que finalement, ce qui m'arrive, c'est Dieu qui l'a décidé. Alors, notre prière aussi change. On change la façon de voir. On se souvient de cet homme, Shimei, qui vient voir David. Il crache sur lui, il jette des cailloux. Il se moque de David. Il humilie en quelque sorte David qui est roi. Les soldats de David disent, mais maître, mais quel est cet incirconcis, cet homme, ce chien ici pour venir t'insulter, t'importuner. David à ce moment-là a le discernement. Il se dit, non, mais ayant le bon sens, comment un homme seul peut avoir le courage de venir me voir? Il sait qui je suis. Il sait que j'ai combattu Goliath. Il connaît tous les prodiges que j'ai faits, puisque Shimei était un proche de Saül. Il connaissait tout ce que David a fait. Mais comment un homme seul peut avoir le courage de venir me voir en face pour m'insulter, pour cracher sur moi? Il a compris, il a eu le discernement, il s'est dit, ah non, sûrement c'est Dieu qui permet ça pour me briser, pour voir mon affliction, pour voir... vraiment, l'état de mon cœur, je suis arrivé tellement au fond, à tel point qu'un homme se permet même de me manquer de respect. Et voilà, David a eu le discernement. David a eu le discernement à ce moment-là. Dans tout ce qui nous arrive, ayons le discernement. Rappelons-nous que si nous sommes enfants de Dieu, ce qui nous arrive, Dieu le permet. Dieu le permet. Et c'est ça que David a eu. Ces gens lui disent, allez, on va s'occuper de cet homme. Rapidement, David dit non, laissez-le. Il dit, laissez cet homme. Il dit, c'est mon propre fils à moi. Me poursuit comme un animal. M'humilie en quelque sorte. Monte le peuple contre moi. Monte le peuple contre moi. Si mon propre fils qui sort de ma maison se permet de faire ça. Parce que pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de David, son fils Absalom a commencé à manipuler le peuple en disant, venez avec moi, venez avec moi. Et David commença à se retrouver seul avec quelques combattants, les Ittaï, les Barzillai et tout, quelques combattants fidèles qui sont restés avec lui. Et il dit, mais si mon propre fils se permet de faire ça, alors pourquoi moi je vais en vouloir à cet homme? David a le discernement et il dit, non, ça c'est surnaturel, c'est pas physique. Ça, ça vient du Très-Haut, c'est Dieu lui-même qui permet cela. Dans tout ce qui nous arrive, c'est Dieu qui permet. Je dis bien, si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes enfants de Dieu, alors là, nous avons maintenant le droit de crier à Dieu pour dire, Seigneur, regarde la situation. Seigneur, la situation me dépasse. Seigneur, regarde la situation. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Alors là, on pourra dialoguer avec Dieu. Dieu pourra nous répondre. Mais si on n'a pas compris que c'est Dieu qui permet, eh ben on va commencer à parler, tourner en rond. Mais Dieu, il attend aussi qu'on comprenne. Il attend qu'on comprenne. Et une fois qu'on a compris, eh ben qu'est-ce qu'on fait? On fait la bonne prière. Nous lisons 1 Samuel au chapitre 1er. 1 Samuel chapitre 1er. Verset 1er au verset 5. 1 Samuel chapitre 1er, 1 à 5. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Élu, fils de Tohu, fils de Tsoub, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car l'Éternel aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Amen. Voilà le verset 5, il y a beaucoup d'informations. On nous dit que Elkana donnait une double portion à sa femme, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Donc on nous dit qu'il donnait une double portion. Donc il équilibrait en quelque sorte. On n'a pas lu la suite, mais c'est ce qu'il dit à sa femme. Il dit, mais est-ce que je ne vaux pas plus que 10 fils pour toi? Donc Dieu a équilibré de telle sorte que Anne, qui manquait d'enfants, elle a eu plus d'affection de son mari. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Notre sujet ici, c'est que la Bible dit que c'est Dieu qui avait rendu Anne stérile. C'est Dieu qui avait décidé les choses ainsi. Et Anne allait tous les jours au temple. Anne priait. Elle priait. Elle allait tous les jours. Elle était assidue au temple. Et un jour, Anne a été touchée au fond d'elle. Elle a fait la bonne prière à Dieu. Elle a dit, Seigneur, donne-moi un fils et je te le consacrerai. En quelque sorte, à ce moment-là, peut-être que quand elle priait, elle disait, Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Comme on dit souvent, dans le contexte, c'est pas comme ici en Occident où une femme peut décider de faire carrière au détriment de fonder une famille. Décider de refuser de fonder famille parce que elle veut maintenir Sa svelte attitude, elle est restée fine. Mais là, ce n'était pas le cas. Et même encore aujourd'hui, au Moyen-Orient et même en Afrique, une femme qui n'a pas d'enfant, elle est déconsidérée. Parfois maltraitée. Subit des insultes, de moqueries, toutes sortes d'injures. C'est une véritable souffrance. Et Anne était dans cette situation-là. Mais elle priait, elle allait tous les jours au temple. Dieu fait quelque chose. Dieu regarde Pénina, qui se moque de moi. Regarde autour de moi, on se moque de moi. Regarde, regarde. Le jour où elle a compris que, en réalité, cet état-là, c'est Dieu qui l'avait décidé. Elle a fait la bonne prière en disant, Seigneur, je sais que tu es tout puissant pour me donner un fils. Là n'est pas le problème. Mais maintenant que j'ai compris, alors donne-moi un fils qui te soit consacré. Nous avons dit tout à l'heure, tout ce qui nous arrive, et là c'est écrit noir sur blanc, c'est Dieu qui l'avait rendu stérile. Dieu a fait exprès, puisque il avait un travail à faire dans le cœur de Anne. Dieu voulait produire quelque chose d'extraordinaire et d'exceptionnel. Mais pour produire cette chose-là, en tout cas, il voulait un prophète, un véritable juge pour Israël, quelqu'un qui donne la direction à Israël, qui enseigne la crainte de Dieu à Israël. C'est ça que Dieu voulait. Mais Anne n'était pas au fait de tout ce que nous disons là. Elle n'était pas au courant de cela. Elle ne savait pas quel était l'enjeu, quels étaient les projets de Dieu. Elle ne le savait pas. Elle ne le savait pas. Mais Dieu lui le savait. Alors il a permis cette situation pour travailler le cœur d'Anne. Travailler son cœur à tel point qu'elle accepte même d'avoir un fils et de vivre comme si elle n'en avait pas. Amen. N'est-ce pas extraordinaire? Mais pour cela, Dieu a permis cette situation. Et ça n'a pas été facile pour Anne tous les jours. Ça n'a pas été facile. À tel point même que celui-même qui était même censé peut-être l'encourager, l'exhorter, se moque encore d'elle. Mais Dieu permet ça pour faire un travail en profondeur. Il est écrit dans Ésaïe que je suis le potier, c'est Dieu qui dit. Et c'est moi qui façonne l'argile. L'argile dira-t-il, mais qu'est-ce que tu fais? Non. Non. Il a permis même que Élie le sacrificateur se moque d'Anne. Elle était tellement bas, tellement bas. Elle dit, non, mon Seigneur, ce n'est pas que je suis ivre, mais c'est que le chagrin est dans mon cœur et je l'exprime. C'est cela. C'est cela. Parfois, Dieu va permettre des situations pour qu'on puisse être comme cette femme syrophénicienne, mendier auprès de Dieu, dire, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, tu vois ce qu'il y a de mauvais en moi. Alors si tu permets cela, aide-moi à accepter la situation. Fais que le travail que tu es en train de faire puisse aller jusqu'au bout. C'est Dieu qui avait rendu Anne stérile. C'est Dieu qui a voulu les choses ainsi. Mais puisqu'il voulait faire quelque chose de grand, que Dan sorte Samuel le prophète. Et c'est ce que Dieu fait. Dans tout ce qui nous arrive, ayons en tête que puisque je suis enfant de Dieu, alors c'est Dieu qui l'a permis. C'est Dieu qui l'a permis. Maintenant, comme nous avons dit, si nous reconnaissons que nous avons mal fait, nous avons péché, nous disons Seigneur, là c'est la conséquence de mon péché, mais c'est toi qui l'as permis quand même pour me corriger. Seigneur, je te demande pardon. Mais si ce n'est pas le cas, disons, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre, Seigneur? Dans tout ce qui nous arrive, Dieu veut nous enseigner. Et là, pour l'histoire de Anne, d'Anne, l'enseignement, c'était que Anne puisse s'humilier, que Anne devienne proche de Dieu. Comme on nous a exhorté une fois, lorsque on rentre dans la présence de Dieu, comme c'est écrit dans le psaume 73. On devient un avec Dieu, puisque on prie, on s'humilie devant Dieu. on comprend finalement la pensée de Dieu et on prie non plus pour notre avantage à nous, mais on prie maintenant pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. C'est cela. C'est cela. Mais pour arriver à ce niveau-là, il a fallu que Dieu permette cette situation. Il a fallu que Dieu fasse un travail dans le cœur. Un travail en profondeur. Peut-être que Anne était superficielle, religieuse, elle croyait en Dieu comme tout le monde. Elle allait au temple peut-être. Elle était régulière, elle était peut-être engagée. Mais Dieu va permettre des situations pour nous réveiller, pour nous amener à crier véritablement. Peut-être qu'on criait, mais là, on s'arrête un instant. On se dit, qu'est-ce qui m'arrive? À moi, qu'est-ce qui m'arrive? Mais je suis chrétien. Je modère. Je prêche. J'exhorte. J'évangélise. Je témoigne auprès des gens. Je chante pour le Seigneur. Et à ce moment-là, on se retrouve seul avec Dieu. Et là, on dit, Seigneur, puisque je t'appartiens, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Puisque je sais que ce qui m'arrive là, c'est toi qui l'as décidé, comme nous avons vu. C'est Dieu qui décide. Donc si je suis dans cette situation, alors qu'est-ce que je dois faire? Comment dois-je répondre? Et Isaac a compris, il a dit, bon, je veux me taire, je vais accepter. Anne a compris, elle a dit, bon, Seigneur, c'est toi qui veux un serviteur. Alors comme tu veux passer par moi, j'accepte maintenant d'être le canal. Et Dieu a exaucé cette prière. C'est cela. Dans tout ce qui nous arrive, c'est Dieu qui permet. Et il a un objectif. Nous lisons Matthieu chapitre 13. Matthieu 13. Verset 24 au verset 30. Matthieu 13, 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume de ceux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?»« Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amasser le blé pour dans mon grenier, pardon. Voilà ce que le Seigneur dit. Les disciples viennent voir le maître en disant, maître, mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons semé le blé, n'est-ce pas? Mais comment ça se fait qu'il y a de l'ivraie? Le Seigneur dit, oui, je suis au courant qu'il y a de l'ivraie. Alors ils disent, bon, dans ce cas-là, on va se séparer parce qu'on ne peut pas laisser tous croître ensemble. L'ivraie va corrompre le blé. Le maître dit non, laissez. Ce texte nous montre encore une fois que Dieu est au courant. Dieu est au contrôle. Même des choses que nous ne voyons pas, Dieu le voit. Il est au courant. Alors lorsqu'on sait qu'il est au courant, eh ben, ça nous apaise. Comme le maître a dit, non, il a dit aux serviteurs, non, laissez comme ça, restez calme. Les choses sont sous mon contrôle. Un jour viendra où je vais séparer le blé de l'ivraie. Il arrive des fois qu'on ait affaire, comme je disais tout à l'heure, à des situations difficiles, à des gens qui nous font tellement souffrir, tellement méchants. Et à ce moment-là, on nourrit de mauvais sentiments. À ce moment-là, on est en colère. Il y a des chrétiens qui disent, mais telle personne, je supporte même pas. Non, c'est pas un langage à avoir pour un enfant de Dieu. C'est pas ça le langage d'un enfant de Dieu. Le Seigneur dit dans Matthieu 5, il dit bénissez. Ne maudissez pas, bénissez. Bénissez. Mais il y a une réalité, c'est que le Seigneur est au courant. Lorsqu'il envoie les disciples, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vous envoie vous, mes brebis, et vous êtes au milieu de quoi? Au milieu des loups. Au milieu des loups. Donc ne pensons pas que lorsqu'on tombe, parfois même dans l'administration, tu tombes sur quelqu'un de tellement méchant, dans ta tête tu dis, ah lui il est raciste, lui. Et là, le diable commence à agir. On commence à avoir de mauvais sentiments. Et là, on commence à nourrir de mauvais sentiments au fond de nous-mêmes. Or, c'est pas ça que le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous appelle à aimer les gens, à prier pour les gens. Là, ce mois-ci, c'est le mois d'évangélisation. Moi, le premier, il nous arrive parfois, les situations, on voit des jeunes, on se dit, dans ma tête, je me dis, ah, c'est toujours les mêmes. Et là, je me repens, je dis, non, Seigneur, pardon. Alors, pourquoi le maître a laissé le blé et livré croître ensemble? C'est ça la question, puisque on voit que le maître était au courant. Mais pourquoi il a laissé? Pour amener le blé à être parfait. Pour que le blé soit au contact de mauvais, afin qu'on voit maintenant la différence entre le vrai et le faux. C'est ça. Ici, nous nous disons chrétiens, n'est-ce pas? Oui. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, que Dieu te bénisse. Mais la vraie vie chrétienne, c'est dehors. C'est là qu'est la vraie vie chrétienne. C'est là la véritable vie chrétienne. Tu te retrouves en face de quelqu'un qui te gifle même, qui te crache dessus. En voiture, il passe, il fait une queue de poisson, il s'arrête devant, il descend de la voiture. Ah, surtout en voiture, généralement, les gens stressent, hein, donc ils sont un peu nerveux, généralement. C'est là maintenant qu'on manifeste la nature que nous sommes de chrétiens. C'est là, à ce moment-là. Donc le maître était au courant, il savait, mais il dit, laissez cohabiter, laisse ensemble. Mais il laisse ensemble parce qu'il sait que le véritable blé, lui, il va vivre sa vie de blé parce qu'il est blé. Mais livré, lui, il ressemble au blé, mais il n'est pas le blé. Donc un jour ou l'autre, il va se trahir. Un jour ou l'autre, il va se trahir. Et parfois, le Seigneur permet ça pour notre perfectionnement. On se rend compte, comme je disais tout à l'heure, parfois tu vois de certains gens, tu dis, ah, mais les musulmans, ouais, ou, ils sont toujours... Là, à ce moment-là, le Seigneur te dit, ah, tu vois, tu manques d'amour. Et là, tu as l'humilité de dire, ah oui, c'est vrai, Seigneur, avec tout ce qui se passe. Parfois, les médias aussi, en ce moment, avec tout ce qui se passe, les médias nous donnent une certaine information pour nous orienter dans un certain sens. Et ça joue aussi sur la façon de penser, ça joue sur les réactions. Ça influence aussi. On se dit, bon, ah. Mais là, le Saint-Esprit te reprend pour te dire, non, toi, tu ne dois pas parler comme ça. Toi, tu dois aimer. Toi, tu dois prier pour la personne. Donc, la situation révèle quoi? Que, Seigneur, je manque un manque d'amour. Seigneur, je manque de foi. Seigneur, je me plains beaucoup. Je n'ai pas confiance en toi. C'est ça que la situation va révéler. Et Dieu laisse comme ça cohabiter pour nous amener à être tel que lui veut. C'est cela. Jésus-Christ, en venant sur la terre, il savait ce qu'il attendait sur la terre. Il le savait. Il le savait. Mais il est venu quand même parce que c'était la volonté de son Père. Il a accepté cela. Lorsqu'on sait que c'est Dieu qui permet, eh ben, on peut pardonner aux autres comme Jésus a pardonné. C'est très important ce que je nous dis là. Quand on sait que l'injustice, la méchanceté que je vis, c'est Dieu qui permet, on peut pardonner. On le voit avec l'exemple de qui? Genèse, au verset 45, verset 50, au chapitre 45, chapitre 50, l'histoire de Joseph. Joseph a souffert. Il a souffert à tel point que il a été déjà vendu. Ne pas voir son petit frère Benjamin, ne pas voir son père, ne pas voir ses frères tout simplement. Il se retrouve chez son maître, la femme l'accuse. Joseph se retrouve encore en prison. Il suffisait qu'il se défende pour dire non, la femme a menti. C'est elle qui m'a fait des avances. Mais Joseph s'est tué. Mais il a souffert quand même. Non seulement d'être en prison, mais en plus que les gens disent, ah, voilà lui le serviteur de Dieu là, c'est un escroc. Il a voulu abuser de la femme. Donc, la mauvaise réputation, toutes ces choses-là, Joseph a subi cela. Il suffisait qu'il se défende, mais quelles seraient les conséquences? C'est que le foyer de son chef allait peut-être se déchirer. Quelles conséquences pour tout le pays d'Égypte de savoir que c'est la femme qui est... Mais Joseph s'est tu. Mais il n'avait toujours pas tout compris. Mais le jour où il révèle à ses frères qui il est, parce que lui, il savait déjà, les frères viennent pour chercher du blé, chercher des provisions. Joseph savait déjà que c'était ses frères. Il utilisait un interprète, mais il comprenait tout ce qu'il disait. Et là, il pose des questions à ses frères. Votre père vit où? Est-ce que vous êtes que ce nombre-là? Est-ce que vous avez un frère? Ils disent, oui, on a un frère. Ramenez votre frère. Et Joseph a fait tout un cinéma. Il ramène le frère et dit, bon, le frère va rester ici avec moi. Et il a... Mais finalement, Joseph, qu'est-ce qu'il dit à ses frères? Il dit, je suis Joseph. Et là, les frères sont terrorisés. Ils se disent, oh, c'est pas possible. Pardonne-nous pour tout ce que nous t'avons fait. Joseph dit, non. C'est vrai que vous avez fait le mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Joseph a compris que tout ce qu'il a vécu, c'est Dieu qui avait permis cela. Non seulement pour lui-même, parce qu'il a souffert, mais aussi pour être un canal de salut pour toute sa famille. Quand on réalise que c'est Dieu qui permet la situation dans laquelle je suis, je vis l'injustice. Mon père s'est remarié, je me retrouve avec ma belle-mère, comme c'est souvent le cas, ou mon beau-père. Parfois, c'est toujours tendu. Et là, à ce moment-là, il y a toutes sortes de pensées. Nous, on se dit non. C'est pas moi qui ai choisi la situation. La situation me tombe dessus. C'est Dieu qui l'a permis. Alors, puisque Dieu l'a permis, j'accepte alors la volonté de Dieu. Et là, on peut accepter de pardonner, comme le Seigneur Jésus lui-même. Il a accepté de pardonner. Matthieu 26, on vient pour arrêter Jésus. Et Judas s'est entendu avec les gens qui sont là. Qui disent, Judas leur dit, bon, la personne à qui je fais le baiser, c'est lui Jésus. Judas arrive. Il dit, bonjour, salut Rabbi. Jésus regarde Judas et dit, mais mon ami, ce que tu as à faire, fais-le. Et à ce moment, les gens viennent. Le disciple de Jésus prend l'épée, il coupe l'oreille. Le Seigneur, il prend l'oreille, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Si tu veux agir par l'épée, ben tu vas périr aussi par l'épée, il remet l'oreille. Jésus restait calme. Mais pourquoi tout ça? Parce que il savait que c'était son père qui permettait cela. Il se retrouve juste après devant Caïphe. Ils prennent des faux témoins. Voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a dit. Détruisez le temple, je le rebâtirai. Il a dit qu'il est... Et Jésus enfonce encore le clou devant Caïphe. Caïphe lui dit, mais défends-toi, dis quelque chose. Es-tu le fils de Dieu? Il dit, mais c'est toi qui le dis. Mais non seulement ça, mais vous allez me voir dans ma gloire assis à la droite du Père. Il dit, oh ben voilà, il n'y a même plus besoin de faux témoins, de témoins, parce que là, tu as encore blasphémé. Mais Jésus est calme parce qu'il sait que c'est son Père qui permet cela. Il est calme. Les disciples sont agités. Il dit à son disciple, il dit, mais ne penses-tu pas que j'ai le pouvoir de donner un ordre, et mon père envoie 12 légions d'anges, une armée. Une légion, c'est plus ou moins 6000 hommes. Alors il dit 12 légions. Il dit, il suffit que je décide. Et ça se fait. Mais il a accepté cela, puisque il savait que c'est son père qui a permis la situation. Et puisque Dieu permet, eh ben, on accepte la volonté de Dieu. Puisque je sais que c'est Dieu qui permet, eh ben, je peux pardonner aux autres. Je peux pardonner à celui qui m'a fait mal, dire, ah Seigneur, j'étais ignorant lorsque je nourrissais des mauvais sentiments. Seigneur, j'étais ignorant lorsque je médisais contre toi dans ma maladie. Seigneur, j'étais ignorant lorsque j'ai mal parlé contre toi à cause de mon épreuve. C'est cela, lorsqu'on réalise que c'est Dieu qui permet, on est dans la paix, on est tranquille. Et c'est ce que le Seigneur lui-même dit. Nous lisons Lamentations 3 pour finir. Lorsqu'on réalise cela, je me souviens, donc nous prenons Lamentations 3, l'histoire de certains juifs qui ont survécu à la Shoah, qui ont tellement souffert. Et il y en a un même dont on a vu, dont on a écouté le témoignage. Et il expliquait, il disait, nous avons tellement souffert. Nous avons souffert. Nous vivions dans la peur de voir que du jour au lendemain, c'était peut-être nous qu'on appelait pour la chambre à gaz. Il dit que la situation était très difficile. Mais il dit, nous aujourd'hui, parce qu'ils se sont convertis, cette personne en tout cas s'est convertie à Jésus, cette personne dit, eh bien aujourd'hui, je sais que dans tous les cas, c'est Dieu qui a permis cette situation-là. Nous ne savons pas pourquoi, mais nous savons que c'est Dieu qui a permis cela. Lorsqu'on sait que c'est Dieu qui a permis les choses, eh bien, on accepte. On n'accepte pas par résignation. On accepte parce qu'on a foi que, Seigneur, là, c'est ta volonté. C'est cela. Ce n'est pas la résignation. On dit, bon, c'est comme ça. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est un manque de foi. On accepte en disant, bon, Seigneur, tu as eu quelque chose à m'apprendre. Et tu m'as appris quelque chose. C'est ça. Donc, dire qu'on accepte, c'est accepter aussi l'enseignement qui est derrière. C'est ça. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, ça ne sert à rien. Et l'enseignement qui était derrière pour ces gens-là, c'était qu'ils devaient avoir foi au Messie qui est Jésus-Christ. Lui seul donne la vie. L'enseignement pour lui, c'était, si je suis resté en vie, c'est que Dieu m'a tellement aimé qu'il a voulu que je rencontre le Messie Jésus-Christ. C'est cela. Alors, il y a tellement de situations que nous vivons. Il y a tellement de choses que nous connaissons. Réalisons d'abord que cela est permis par Dieu. Cela est permis par Dieu. Nous lisons Lamentations, chapitre 3. C'est un passage qui est tellement enrichissant, mais nous allons lire une partie. Lamentations 3. On peut commencer au verset 19. Lamentations 3, à partir du verset 19. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je vais repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui? Pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tient solitaire et silencieux parce que l'Éternel lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière. Sans perdre toute espérance. Il dit bien que l'Éternel permet même qu'il mette sa bouche dans la poussière. C'est l'Éternel qui permet cela. Il présentera la joie à celui qui le frappe. Il se rassasiera d'opprobre, car le Seigneur ne rejette pas toujours. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Voilà ce beau texte de Jérémie, et nous n'avons pas lu avant. Il dit que à cause de l'Éternel, aujourd'hui le peuple se moque de moi tous les jours. Il dit même, ils chantent, je suis le sujet de leur moquerie. Tous les jours, ils ont composé même des chants pour se moquer de Jérémie. Nous voyons la méchanceté de l'homme. Il dit, mais pourquoi Dieu permet tout cela? Il dit, au fond de moi, j'ai même perdu tout espoir en Dieu. Ma joie s'est transformée en tristesse de vivre tout cela. Et c'est là que nous arrivons au verset 19. Il dit, mais toutefois, je veux espérer en l'Éternel. Car même s'il rejette, ce n'est pas pour toujours. Même s'il afflige, ce n'est pas sans cause. Il dit, lorsque une personne est injustement maltraitée, même justement même, est-ce que Dieu voit ça de son trône et reste insensible? Il dit non, c'est impossible. Il dit, si moi je souffre, moi qui suis enfant de Dieu, et là on peut mettre nous aussi, moi aussi le premier. Lorsque je suis dans ma situation, dans mon épreuve, la maladie, lorsque je suis dans mon épreuve, je ne sais pas quelle est la situation, mais je me dis, dans ma souffrance, là, est-ce que Dieu qui est là, il me regarde, il rigole? Non. Non. Jérémie dit non, ce n'est pas possible. Il dit, si Dieu permet cela, c'est qu'il a certainement quelque chose à faire. Il a certainement un projet. Et Jérémie a fini par comprendre cela. Il dit, qui peut faire que quelque chose arrive sur la terre si Dieu ne l'a pas ordonné? Il dit non, c'est Dieu qui l'a ordonné. C'est Dieu qui l'a ordonné. Mais ensuite, la conclusion, c'est que n'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent le mot et le bien? Pourquoi l'homme vivant se plaindra-t-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Et l'appel d'aujourd'hui, c'est la première chose, en conclusion, c'est de nous dire que tout ce qui nous arrive, si nous sommes enfants de Dieu, c'est Dieu qui le permet. C'est Dieu qui a décidé. C'est Dieu qui a décidé. Dieu n'est pas surpris. Dieu n'est pas surpris. Il a déjà vu les choses à l'avance. Mais non seulement il a vu les choses à l'avance, mais il a déjà travaillé pour nous à l'avance. Comme il a dit à Pierre, le diable t'a réclamé, mais moi, j'ai déjà travaillé. Prendre conscience que dans ce qui m'arrive, c'est Dieu qui l'a décidé. Ainsi, la conséquence, c'est que, puisque je sais, je suis sûr que c'est Dieu qui a décidé cela, alors je dis comme notre Seigneur Jésus, non ma volonté Seigneur, mais que ta volonté se fasse. Puisque j'ai compris que c'est Dieu qui l'a décidé, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Est-ce que tu veux m'éloigner des méchants comme Isaac? Est-ce que tu permets que je souffre, que je sois dans une situation pour m'attacher davantage à toi, manifester que je suis de toi? Est-ce que c'est pour mon perfectionnement, pour m'amener à aimer encore davantage les mauvais, Matthieu 13, 24 qu'on a lu? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner, Seigneur? Maintenant, celui qui n'a pas le Seigneur, Dieu permet aussi, puisqu'il est tout-puissant, il est souverain. Mais malheureusement, si tu meurs dans cet état-là sans le Seigneur, qu'est-ce qui va t'arriver? Mais malheureusement, lorsque le malheur va s'abattre sur toi, est-ce que tu penses que toi-même, tu es légitime pour crier à Dieu? On se rappelle du témoignage d'un frère qui nous raconte souvent. Il nous dit, lorsqu'il a échoué à l'école, il était tellement chagriné, lui qui était sûr de bien travailler. Il a échoué, il a crié à Dieu. Et la voix du Saint-Esprit lui dit, mais as-tu le droit de parler? Et je pense que si on est sincère, souvent lorsque on est dans un péché, parfois on prie, on n'a pas la paix, on sait que ah, ma prière là c'est du blabla. Parce qu'au fond de nous, on sait qu'on a quelque chose à arranger, si on est sincère. Le Saint-Esprit te dit, Matthieu 18, va voir le frère, va voir la sœur, va arranger la chose. Mais au fond, on se dit, bon, ah non, 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 non. Mais on prie quand même, on prie, mais au fond de nous, on est dérangé. On sait que finalement c'est faux, mais est-ce que Dieu agrée de telles prières? Est-ce qu'il écoute même de telles prières? Non. Il n'écoute pas de telles prières. Voilà pourquoi Jérémie dit, alors, si nous ne sommes pas dans le cas où nous appartenons à Dieu, revenons à Dieu. Ainsi, nous pourrons crier à Dieu. Et la Bible dit, lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend. Mais le malheureux, ce n'est pas seulement celui qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie et qui fait le triste, qui est malheureux. Non, ce n'est pas ça le malheureux. Le malheureux, c'est celui qui reconnaît en lui-même qu'il est perdu, qu'il est pécheur. Mais non seulement cela, qui reconnaît que Jésus-Christ peut le sauver. C'est ça le malheureux. Et ce malheureux-là, c'est nous qui sommes chrétiens de tous les jours, mais c'est aussi celui qui n'a pas Jésus. Il peut crier à Jésus. Il peut dire, Seigneur, aide-moi. Seigneur, je me suis trompé. J'ai vécu ma vie sans toi. Maintenant, j'ai compris que j'ai fait fausse route. Alors, je veux maintenant rentrer et vivre dans ton plan. Voilà pourquoi la Bible, David dira, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduira dans les verts pâturages et même dans la vallée de l'ombre de la mort, parce qu'il n'y aura pas que de verts pâturages. Il y aura des temps aussi durs, obscurs. Mais dans ces temps-là, je sais que ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta présence est là. C'est ça la différence entre celui qui est de Dieu et celui qui n'est pas. Celui qui est de Dieu, il sait que dans ce qui lui arrive, comme j'ai donné l'exemple de Stephen Curtis Chapman, il a vécu cette situation-là. Beaucoup aujourd'hui se retrouveraient à l'hôpital psychiatrique. Son propre fils, j'ai même suivi le témoignage, l'auteur de l'accident lui-même. Il dit, mais avoir sur la conscience la mort de sa petite sœur. Il dit, mais c'est cruel, c'est horrible. C'est horrible. Assister aux obsèques, se dire que c'est à cause de moi. Il dit, c'est horrible, mais il dit, parce que il est batteur, son père chante et lui, il joue à la batterie dans le groupe. Il dit, maintenant je joue à la batterie. En louant Dieu, mais en disant aussi au diable, parce qu'il dit que le diable m'a tourmenté, c'était comme la dépression, pour me dire, voilà à cause de toi. Il dit, maintenant, quand il joue, à chaque fois qu'il tape là, il dit, Jésus est Seigneur, il tape, il dit, le diable, tu as menti, tu es vaincu. Voilà. Parce qu'il a compris finalement que oui, il a peut-être causé l'accident, mais tu as permis cela. Alors la Bible dit qu'il peut redresser ce qui est courbé. Qui ? On ne peut pas revenir en arrière. Maintenant, on avance. Mais on se dit, bon Seigneur, c'est toi qui as permis. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, maintenant quand je joue avec paix, avec joie. Puisque je sais que tout est sous le contrôle de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, qui est un encouragement pour nous tous aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, tu connais, Seigneur, ce que nous traversons. Tu connais, Seigneur, les difficultés que nous pouvons connaître. Seigneur, ça nous rassure de savoir que toi, tu es au courant. Que toi, tu es au courant, Seigneur. Ça nous rassure de le savoir, comme nous l'avons vu avec l'exemple de Lazare. Tu étais au courant, mais non seulement tu es au courant, mais tu sais ce que tu vas faire, Seigneur. Cela nous rassure. Nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à prendre conscience que dans tout ce qui nous arrive, c'est toi qui le permets, Seigneur. Dans tout ce qui nous arrive, Seigneur, nous sommes surpris. Il nous arrive d'être déstabilisés, Seigneur, par des mauvaises nouvelles. Mais toi, tu es déjà au courant, Seigneur. Nous nous souvenons de Jaïrus qui parle avec toi, Seigneur Jésus. Les disciples, ses amis viennent nous dire, arrête d'embêter le maître car ta fille est morte. Mais Seigneur, tu dis à Jaïrus d'avoir la paix, d'avoir la foi. De croire, puisque tu allais sauver sa fille, Seigneur. Seigneur, que tous ces exemples soient des encouragements pour nous. Que nous puissions nous rappeler, Seigneur, que tout ce que nous vivons, tu dis, Seigneur, que même lorsque un seul cheveu tombe de notre tête, toi, tu es au courant. Tu dis, Seigneur, que tu as soin même des moineaux, Seigneur. Alors à combien plus forte raison, nous qui sommes tes enfants. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à réaliser que tu es au courant de tout ce qui nous dérange, tout ce qui nous perturbe. Non seulement tu es au courant, mais parfois c'est toi-même qui l'as décidé. Alors nous prions, Seigneur, puisque nous savons que c'est toi qui permets, nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à faire la prière qu'il convient. Nous prions pour que tu mettes la paix dans nos cœurs. Nous prions, Seigneur, pour que nous puissions manifester la foi. Que tu es tout puissant pour nous sortir des situations. Et si c'est ta volonté que nous demeurions dans ces situations, nous prions pour que tu nous préserves du mal. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Nous prions pour ceux qui n'ont pas décidé encore, Seigneur, Jésus, de te donner leur vie. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour qu'au travers de ta parole, qu'ils puissent réaliser, Seigneur, qu'auprès de toi, nous sommes en sécurité. Réaliser, Seigneur, que c'est toi qui es le véritable abri. Réaliser, comme il est écrit dans le psaume 91, que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ.